Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La censure ou la liberté culturelle, les conséquences de l'affaire MeToo, les débats autour de la correction politique sont parmi les thèmes réguliers que cette émission a tenté de suivre au cours de cette première année d'existence qui s'achève. Il y a un sujet que nous n'avons pas abordé encore autour de ces questions, c'est celui de l'écriture inclusive. Avancée politique et féministe pour les uns, élément de plus dans la guerre que mène l'époque contre la langue et la culture pour les autres, la question de l'écriture inclusive a en tout cas surgi dans le débat public à l'automne 2017, après la publication aux éditions Attier d'un manuel scolaire à destination des CM2, dans lequel on pouvait notamment lire cette phrase « Grâce aux agriculteurs.ris.s, aux artisans.e.s et aux commerçants.e.s, la Gaule était un pays riche ». La phrase repérée a fait l'objet de tribunes indignées dans la presse qui ont lancé le débat. Depuis, l'écriture inclusive s'est répandue à l'université, dans certains essais, mais aussi dans certaines rédactions de médias, sans que les journalistes en soient nécessairement avertis. Le site d'information Slate, par exemple, réécrit presque systématiquement les papiers de ses collaborateurs en écriture inclusive, sans forcément leur demander leur avis. Les éléments de la plaidoirie en faveur du langage inclusif ont été résumés en septembre dernier par Eliane Viennot dans « Le langage inclusif, pourquoi, comment ?» paru aux éditions X. Et voici que sort ce printemps le réquisitoire, mené cette fois par Daniel Manès et Gilles Sioufi dans un livre collectif intitulé « Le féminin, le masculin dans la langue ». Et c'est l'occasion de faire le point. Daniel Manès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de sciences du langage à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Votre travail de chercheuse porte surtout sur les difficultés d'entrée dans la langue et la culture écrite des enfants et des jeunes adultes. Oui. Et donc vous êtes coordinatrice avec Gilles Sioufi de Le féminin et le masculin dans la langue qui sort en ce moment. Eliane Viennot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de littérature française de la Renaissance à l'Université Jean Monnet à Saint-Étienne et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vous avez écrit plusieurs livres, dont celui dont je viens de parler, « Le langage inclusif, pourquoi, comment ?» petit précis historique et pratique. Et dans ce livre, vous commencez par dire que l'écriture inclusive n'est ni un péril mortel, ni l'expression d'une pensée dictatoriale, ni un massacre, juste un souci de s'exprimer de manière plus exacte et plus égalitaire, en s'appuyant pour l'essentiel sur les ressources traditionnelles de la langue française. C'est bien ça ?
Oui, en tout cas, c'est ce que je défends.
Ce que vous dites aussi, c'est que la fluidité du genre progresse chaque jour dans tous les domaines et dans un nombre croissant de pays. En langue française, dites-vous, c'est impossible. Pourquoi ?
Alors, ce sont deux discussions un petit peu différentes. La discussion sur le langage égalitaire, ou langage inclusif, parce que c'est synonyme du point de vue du langage, dont l'écriture n'est qu'un volet. Hein. Oui, moi, je défends l'idée que c'est tout à fait possible de parler de manière moins sexiste, parce que le français est taillé pour ça. Le français possède beaucoup de ressources pour exprimer le féminin et le masculin à égalité. Et donc, simplement, il faut revisiter ces ressources, les remettre dans le débat public. Par exemple, les mots féminins, on a besoin d'en inventer quasiment aucun. Tous les mots qu'on croyait manquants, il y a encore 40 ans, ils sont là depuis longtemps. Par exemple, moi, maintenant, je ne me dis plus professeur, mais professeuse. C'est le mot que connaissait Voltaire, c'est le mot que connaissait Victor Hugo. Donc, voilà, alors on a beau avoir été lu des grammaires comme celle de Becherel qui disait qu'il ne faut pas employer ce mot, en réalité, les Français l'ont employé pendant très longtemps et il est tout à fait normal. Il est comme coiffeuse, danseuse, chanteuse, etc. Donc les mots ne manquent pas. Le fait de faire des accords sans cette règle qui voudrait que le masculin l'emporte sur le féminin, c'est traditionnel dans le français. On sait faire des accords de majorité, on sait faire des accords selon le sens, on sait faire des accords de proximité. On n'a pas besoin du mot homme pour parler de l'humanité. Voilà, donc on a beaucoup de ressources qu'il faut remobiliser et réapprendre, bien sûr, aux enfants. Hein. Voilà. Alors, le deuxième, on y reviendra très certainement sur l'écriture, c'est sur le fait que à l'écrit, les doublets peuvent, commerçants, commerçantes, par exemple, si on n'a pas envie de les écrire tous les deux, on peut les écrire avec un point milieu, c'est pas grand-chose. Simplement,
on va y revenir.
Simplement, il faut avoir les bonnes techniques. Et ce que vous avez donné tout à l'heure comme exemple, n'était pas la bonne technique. Alors le deuxième problème que vous soulevez, qui s'invite régulièrement effectivement dans le débat, c'est y a-t-il moyen d'aller vers plus d'égalité sans reféminiser la langue ? Parce que c'est ça notre problème. Notre problème, il n'est pas de féminiser la langue, elle a tout ce qu'il faut. Le problème est de la reféminiser ou de la démasculiniser. C'est en tout cas la thèse que je soutiens. Et des gens se disent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement ? Est-ce qu'on ne pourrait pas remobiliser du neutre, etc. Ben, moi, je dis non. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, le neutre a disparu de nos langues. Et puis, de toute façon, le neutre n'était pas fait pour parler des personnes. Et le français, pour l'instant, ne connaît pas l'entre-deux, féminin et masculin.
Vous écrivez quand même, concernant le français, on voit bien comment le démasculiniser,
oui.
Mais pas comment le dégenrer.
Oui.
Et vous ajoutez, il se pourrait que la langue soit le seul domaine intraitable en la matière. Barthes disait fasciste.
Oui, absolument.
Alors, vous n'y allez pas de main morte, quand même.
Il n'y allait pas de main morte. Il n'y allait pas
mais
de main morte.
Mais vous non plus, du coup.
Il se trouve que les langues romanes ne connaissent pas de troisième genre. Voilà, nos langues sont très, très genrées. On a du genre qui s'impose dans les noms, dans les articles, dans les adjectifs, dans les participes, dans les pronoms. Et pour l'instant, on ne sait pas faire. Alors, moi, je ne ferme pas du tout la porte. Je dis que peut-être qu'il va y avoir des propositions qui sont faites. Il y en a déjà, mais elles ne sont pas... De mon point de vue, elles ne sont pas satisfaisantes, mais ça va peut-être arriver. Voilà. Donc il faut laisser venir, et de toute façon, ne prendront dans le français des francophones, hein, des 300 millions de francophones que nous sommes, ne prendront que les solutions qui s'inscrivent dans la nature du français et qui seront ressenties comme satisfaisantes.
Alors Daniel Banès, je vous oppose vous critiquez Liane Viano dans votre livre collectif, hein, pas vous nommément, mais elle est critiquée dans le livre.
Hein. Oui. Si je commençais par un point d'accord.
Oui, justement, c'est ce que j'allais dire.
Qui est que la féminisation des noms de métiers, de fonctions, etc. Ça, je pense que c'est un point tout à fait à part sur lequel non seulement je pense que Liane Viano et moi sommes tout à fait en accord, mais qui est rentré dans les mœurs, qui est rentré dans l'utilisation de la langue, qui fait débat chez un certain nombre de gens, mais qui a commencé, comme tout commence dans la langue, par la langue orale. Depuis que je suis petite, et ça fait très longtemps, eh ben, je disais « ma prof », la médecin de ma mère, et il y a de toute façon des solutions qui ont été trouvées et il fallait féminiser. Ça fait 35 ans qu'il est sorti des textes officiels là-dessus, que des linguistes et des non-linguistes ont travaillé. Ça, je pense qu'on peut le mettre de côté et que là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du conservatisme et du machisme, à vouloir, par exemple, telle amie avocate qui, je crois, s'est fâchée avec moi parce que je riais quand elle m'a dit qu'on lui écrivait à Madame l'avocat et cher confrère. Et que j'étais stupéfaite. Ça, c'est une chose. Mais là où nous commençons à être en désaccord avec Liane Viano et d'autres, c'est que je crois que le féminin de la langue et le féminin du monde, c'est pas du tout la même chose.
Voilà.
Qu'il y a dans la langue française deux genres et pourquoi pas trois. Puisque quand je dis « que veux-tu ?», quand je dis « ça va bien », qu'est-ce que c'est ça ? Il reste des petits bouts de neutre comme qui ont été liquidés dans le passage du latin au français, du latin et autres. On sait qu'il n'y a pas que le latin qui constitue et qui a constitué le français. Mais moi, je voulais appeler ce livre dont j'ai eu l'initiative après la stupéfaction qui m'a saisie quand j'ai découvert l'écriture inclusive. Je voulais appeler ce livre « Elle pleut ». Mais l'éditeur n'a pas voulu. Et le compagnon que j'ai trouvé pour... je cherchais un linguiste ou une linguiste, peu importe, mais c'est un sujet assez brûlant et assez casse-gueule pour ne pas qu'il faille risquer de faire des erreurs.
Oui.
Et ce sujet, donc, je l'ai pris en linguiste, c'est mon métier, et en me disant que... Il y a erreur sur le féminin.
Oui, c'est-à-dire ce que vous dites, c'est que la tête d'oreiller n'est pas féminine parce qu'on dit la tête d'oreiller. La table, ça ne féminise pas la table. Le fauteuil ne masculinise pas l'endroit où on s'assied.
Oui, c'est tout à fait important de savoir que dans toutes les langues indo-européennes, c'est pas vrai, par exemple, de l'anglais. Donc, mm-hmm. je vais tout de suite annoncer des limites. Mais il y a du féminin, du masculin, il y a du russe. En russe, il y a du neutre. En grec, y compris en grec moderne, il y a du neutre. En allemand, il y a du neutre. Voilà. Bon, mais cette histoire de genre qui remonte, ah, il y a très longtemps, ni vous ni moi, vous en êtes d'accord, ne saurons jamais dire, parce que des gens bien plus compétents que nous ont travaillé sur l'origine de l'indo-européen, les origines croisées d'ailleurs de l'indo-européen, ne sauront dire d'où vient que les termes ont pris le masculin, le féminin, certainement avec des valeurs sexuées. Ça, c'est certainement à l'origine. C'est pas pour rien que le soleil est masculin dans certaines cultures, mais qu'il est féminin dans d'autres cultures.
Mais ce que vous dites, c'est qu'avec le temps, la langue s'est séparée de son origine sexuée, en fait. Et que si la langue française n'est pas, certains usages de la langue ou certains discours sur la langue, je pense que vous êtes toutes les deux d'accord là-dessus, d'ailleurs, sont susceptibles d'être machistes ou phallocrates, mais la langue elle-même ne l'est pas. Là-dessus, vous êtes toutes les deux d'accord aussi.
Ah oui, mais moi surtout je fais, bien sûr, moi c'est ce que je défends, le français n'est pas sexiste. Ce qui est sexiste, c'est nous qui sommes sexistes et qui donc avons des pratiques sociales, pas seulement sur la langue, mais entre autres sur la langue, puisque c'est une pratique sociale. Mais moi je voudrais insister sur le fait que on a besoin de clarifier les débats. Nous avons dans nos langues deux grands corpus de termes. On a un corpus qui parle des êtres animés, qui parle des humains, d'un certain nombre d'animaux dont on voit la différence sexuelle, etc., qui possède deux mots. Voilà, il y a homme-femme, il y a serf-biche, il y a boulanger-boulangère, etc. Et puis il y a l'autre corpus qu'il faut pas inviter dans le débat, parce que vraiment on ne fait que tout mélanger, qui est le corpus des choses, des objets, des sentiments, des inanimés, ce qu'on appelle. Et pour ce corpus-là, il n'y a qu'un mot. Il y a table et c'est féminin. On ne sait pas pourquoi, peu importe. Mais et fauteuil, c'est masculin. Mais on n'a pas un problème entre la fauteuil et le fauteuil ou entre la table et le table. Il n'y a qu'un mot. Par contre, quand on parle des êtres humains, et notre problème aujourd'hui, c'est celui des êtres humains, même pas celui des animaux, hein, c'est le sexisme de nos usages linguistiques qui font quasiment systématiquement disparaître. Quand on parle d'une population mixte, par exemple, eh bien, nous avons aujourd'hui des usages qui font qu'on va parler au masculin. Et puis, peut-être à un moment, on va se rendre compte que, on parlait un peu des femmes aussi, ou bien on n'en parlait pas. Mm-hmm. Bon, donc, notre problème, il est sur les animés. Il faut laisser tomber le soleil et la lune. C'est pas notre problème. Ils n'ont pas de problème de différence de salaire, ces gens-là. Voilà, nous, notre problème à nous, c'est aujourd'hui, comment fait-on pour parler un langage qui est respectueux de l'égalité, puisque nous sommes officiellement rentrés dans une période, dans un monde, depuis le milieu du XXe siècle, ou un petit peu avant, un petit peu après pour certains pays, où nous sommes prétendument favorables à l'égalité. Donc nous devons porter plusieurs combats, beaucoup de combats sur les salaires, sur la violence. Enfin, je ne fais pas un dessin puisque vous connaissez ça. Mais dans la langue aussi, nous avons incrusté, les siècles passés ont incrusté la domination masculine dans la langue. Et notre problème aujourd'hui, c'est d'essayer de la désincruster, de la décontaminer.
Alors, lire vos deux livres pratiquement en même temps, ce que j'ai fait, un des aspects fascinants, c'est que vous vous intéressez aux mêmes périodes et vous dites quelquefois la même chose, mais vous n'en tirez pas du tout les mêmes conclusions, l'une et l'autre. Un des points les plus passionnants, c'est évidemment de reconstituer l'histoire de la langue. La césure pour toutes les deux, c'est le XVIIe siècle. Ça commence au XVIIe siècle, puis il y a quelque chose qui est une grammatisation de la langue qui va croissante après le XVIIe siècle, lors des XVIIIe et le XIXe siècle. Donc, je pense que vous êtes d'accord avec ça.
Je pense. En réalité, Manès. Ça commence avant. Hein.
Oui. Mais voilà. Ça commence
par
avant.
Par exemple, quand on a décidé « il pleut », ben c'est le moyen français. On aurait pu dire « ça pleut ». C'est ce que disent d'ailleurs beaucoup de gens dans le peuple, hein, ça pleut, tiens, aujourd'hui ça gèle. Donc voilà, il y a eu des décisions qui datent d'un peu avant. Mais il est vrai que le grand moment de la masculinisation de la langue, c'est à partir du XVIIe siècle.
Pour vous, c'est la masculinisation, et pour vous, Daniel Manès, c'est la grammatisation, c'est le terme qui conviendrait ?
Moi, attends, non. Mais quand on parle du féminin, je ne parle pas du genre sexué du sexe féminin. Je parle du féminin dans la langue, et voilà. Quand je dis, ces exemples qu'on prend toujours, une sentinelle, quand je citais beaucoup à mes étudiants ce vers de Jean Genet, les folles amours de la sentinelle et du mannequin, qui est un vers admirable, puisqu'il inverse les sexes et de l'un et de l'autre. Bon, je pense que la langue, elle est son ordre propre. Et que l'anglais qui n'a pas d'accord, par exemple, d'accord grammaticaux, n'est pas une langue moins sexiste ou plus sexiste. Moi, je pense que c'est l'usage de la langue qui est autre chose. L'usage de la langue, oui, qui peut être sexiste, ce qu'on en dit, ce qu'on en fait. Bon. Que le masculin, que comme les deux choses s'appellent de la même manière. Moi, je vais dire simplement sexe et genre grammatical. Comme ça, on sait de quoi on parle. Même si c'est pas linguistiquement correct maintenant, bon, on doit les séparer. On doit les séparer, et parce que sinon on se trouvera dans des situations impossibles, comme par exemple le lion, la lionne, oui, mais comment désigne-t-on le mâle girafe, si on parle des animés? Alors on va réduire. Non, on va réduire, on va dire que c'est les animés humains.
Non, c'est ceux dont on voit la différence sexuelle. Le dauphin, moi, je n'ai jamais vu de dauphin d'assez près pour savoir si c'est un dauphin ou une dauphine. Et c'est comme ça, c'est pas la même chose pour le corbeau, c'est la même chose pour les moustiques ou les mouches.
Mais quel est l'enjeu?
On sait bien. Il n'y a aucun enjeu. J'espère de vous dire que il y a un certain nombre d'animaux qu'on traite comme des objets, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un mot avec un genre, la grenouille, le crapaud, etc. Et il y a un certain nombre d'animaux dont on voit la différence sexuelle, comme les lions et les lionnes, et là où il y a deux mots, comme chez les humains.
Alors, pour donner cet exemple concret que vous donnez vous-même, d'ailleurs toutes les deux, avant le XVIIe siècle, Eliane Viennot, vous citez un certain nombre de mots qui étaient utilisés, qui étaient courants, archière,
tout est au féminin,
servoisière, coffrière, ferronne, aulmière, mairesse, maréchale, portière, tavernière, etc.
Mais on repasse au nom de métier, ça on est d'accord, de métier, de fonction, ça c'est le lexique. Le voilà. Lexique,
sentinelle,
quand on a besoin, bien sûr.
Non, sentinelle, bien c'est pareil, sûr, il se trouve que c'est une métaphore, bon, voilà. Et donc c'est pour ça que c'est resté féminin.
Peu importe, oui, mais ça n'a aucune importance.
Mais ce n'est pas une exception.
Quand on a besoin de mots féminins, on les crée, et s'ils existaient par le passé, c'est très bien de les faire revivre, bien
évidemment. Mais l'une des choses qu'Eliane Viennot montre, c'est qu'à partir de la naissance de l'Académie française, donc le débat s'oriente, et on trouve des réflexions comme « il faut dire cette femme est poète et non poétesse, philosophe et non philosophesse, médecin et non médecine, auteur et non autrice, etc. »
C'est pas toute l'Académie qui dit
non,
ça,
non,
c'est
voilà.
Un de l'Académie
voilà.
Qui dit ça.
Oui.
Il
bah,
y a
après,
débat
répète.
À l'Académie.
Voilà.
Il y a énorme débat à l'Académie, comme il y a eu débat, comme on a vu, puisqu'on a attendu un certain temps que l'Académie française, la nôtre, qui nous est contemporaine, réagisse sur ces noms de métiers. Et elle a fait. Elle a madame le secrétaire perpétuel qui était assez obstinée sur sa position.
Qu'elle est toujours.
Et bon, alors, mais peu importe.
En réalité, bien sûr qu'il y avait débat. Moi, je cite beaucoup de grammairiens qui ne sont pas d'accord avec les réformes que proposent leurs collègues. Il n'empêche que ils se sont pas attaqués aux mots tables. Ils se sont attaqués à toutes les fonctions dont ils estimaient, toutes les activités, on va dire, dont ils estimaient que c'était l'apanage des hommes. Quand vous citez, effectivement, il ne faut pas dire poétesse, philosophesse, médecine, peintresse, autrice, voilà, on ne trouve jamais, enfin moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais trouvé de condamnation du mot boulangère ou du condamnation du mot
non,
servante.
Sur tout ça, on est tellement d'accord que ça ne vaut pas le coup d'y revenir. J'ai l'impression qu'on l'avait réglé au début.
Il y a bagarre. Non, mais là, on parlait d'histoire.
Il y a un point intéressant quand même, Daniel Ménès, que vous soulevez dans votre livre, c'est que ce débat sur la féminisation ou non des mots de métier en particulier et de fonction à partir du XVIIe siècle va de pair avec d'autres questions qui se posent. La question du pluriel, la question des accords, c'est le fameux débat sur ce qu'on appelle l'accord de proximité. Et vous donnez toutes les deux d'ailleurs des exemples de tournures absolument étonnantes qui étaient employées, ce que j'ignorais complètement, par exemple 21 cheval.
C'est André Chervel qui
oui,
fait ça.
Oui, c'est André Chervel. C'est dans,
si
c'est dans son article.
Si on passe à ça, on passe à autre chose, il faut en être conscient.
C'est quand même, il y a quand même un lien.
Il y a un lien, parce que c'est tout le XVIIe siècle invente, met au point un certain nombre de règles qui vont vers une plus grande puissance du masculin par rapport au féminin. Donc il y a un lien, et il y a un lien politique.
Alors.
Oui. Je pense que tout ça se passe dans la langue, et que la langue, Que les hommes soient machistes et en usent de manière machiste, c'est incontestable et on n'a pas grand-chose à gagner d'en ajouter des témoignages. La question de l'accord de proximité, elle vient du latin. Mm-hmm. Elle vient du latin, elle existe dans d'autres langues. Et on a dans notre livre, vous savez moi, je ne le savais pas ça. Et pourtant j'ai fait des études poussées de latin et de grec. Et eh bien, on a été voir un spécialiste de latin qui a montré, Bernard Colombet dans notre livre, montre très bien comment cet accord de proximité était en effet parfois la règle, mais parfois pas. Qu'il ne l'est pas avec la tribu, par exemple. C'est-à-dire, nous parlons bien d'accord de proximité d'un adjectif qui détermine deux noms de genres différents. Hein, nous parlons de cela. Pierre et Marie sont belles ou Pierre et Marie sont beaux.
Oui, oui, oui.
Bon, voilà. L'accord de proximité en latin se fait avec la tribu, il se fait plutôt au masculin. Et il y a débat en latin. Il y a débat chez les grammairiens sur le latin. C'est là où, quand je dis nous avons pris ce thème, non pas... Moi, je me suis dit, c'est un problème de linguistique, c'est intéressant, discute, allons voir. Je suis une linguiste, on va travailler. Mais pour les choses que je sais pas, j'ai été voir Chervel, j'ai été voir Colomba, j'ai été voir Gilles Soufi, qui a travaillé sur les archives de l'Académie française. Plus que moi, je ne l'ai fait, mais je l'ai fait pourtant, dans à certains moments de ma vie. Bon, et là, les choses ne sont absolument pas aussi tranchées qu'il est dit, et surtout que ça s'est dit dans le débat.
Et c'est ça qui est remarquable, c'est la plasticité de la langue française telle qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre, de la lire ou de l'entendre. Oui. C'est quelque chose que vous faites toutes les deux ressortir dans vos livres, hein, avec des exemples. Ses pères et ses mères qui font profession d'être chrétiennes et non profession d'être chrétien. Ou Lafayette qui écrit « Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer pour se trouver le soir au bal et au festin royal ». Et non au bal et au festin royaux tel que ça devrait normalement. Et puis la fameuse phrase qui est au cœur du débat entre Malzerbe et Vaugelas.
C'est une phrase de Racine.
Ce peuple a le cœur et la bouche ouverte à vos louanges. Ou il faudrait dire ouvert, mais on dit ouverte en l'occurrence.
Ouverte à vos louanges. Ouais. C'est à cause de bouche, bien sûr. Non, mais ça veut dire bien sûr que la langue
féminin,
est plastique.
Le féminin l'emporte.
Mais heureusement que la langue est plastique. Quand on a un problème d'accord de proximité.
Donc on peut y revenir, vous êtes d'accord? Donc on
non,
peut y revenir.
Non, la langue écrite, c'est autre chose.
Non, je parle de la langue écrite.
C'est ça qui est très important, parce que moi je m'occupe de la transmission. La langue et ça, c'est...
Mais
la langue plastique, on s'est toujours débrouillé. Je dis par exemple, mon voisin est arrivé avec ses 6 filles, ruisselantes d'eau, et lui aussi. Bien sûr qu'on se débrouille, on va pas dire, ils sont arrivés avec ces 6 filles ruisselantes d'eau. On le sait très bien, on a des corpus, des masses de corpus. Mon métier, c'est de travailler sur des corpus de la langue orale.
On parle de vers de Racine, c'est de la langue écrite, en l'occurrence.
Bien sûr, là, on parle de vers de Racine, où l'accord de proximité est encore la règle, et ça a été débattu dans les trois siècles qui suivent.
Et le féminin l'emporte sur le
masculin. Je crois que Gervel le montre très bien. Oui. Comment ça oppose, par exemple, Vaugelas à Malherbe.
Oui.
Comment l'école l'a prôné, à la différence de ce qui s'est dit, l'a prôné jusqu'aux années 30, et c'est elle qui a inventé l'expression accord de voisinage, parce que Chervel, il a lu 2000 manuels scolaires, donc on peut lui faire confiance, c'est certainement le plus grand historien de l'école, etc. C'est-à-dire que les choses se débattent pour fixer la langue, partout elles se débattent. Pour fixer la langue russe, pour fixer le... Mais même en grec, vous le trouvez, il y a un dialogue de Platon sur Troie qui parle des problèmes de langue et de...
Mais vous ne pouvez pas nier quand même que le débat, pour beaucoup de gens, est très idéologique. Quand Becherel, moi j'aime beaucoup Becherel, c'est devenu mon copain, nous explique que, la citation, hein, « Quoi qu'il y ait un grand nombre de femmes qui professent, qui gravent, qui composent, qui traduisent, on ne dit pas professeuse, graveuse, compositrice, traductrice, mais professeur, graveur, compositeur, traducteur, par la raison que ces mots n'ont été inventés que pour les hommes qui exercent ces professions. » Et il met ça dans un chapitre qui s'appelle « Nom », qui exprime des états, des qualités qu'on regarde en général comme ne convenant qu'à des hommes. Il a sorti cette grammaire en 1834, c'est-à-dire au moment où Guizot venait de décider, un an avant que tous les petits garçons de France et de Navarre iraient à l'école, et ils ont lu cette grammaire, et ils l'ont lue, elle a été valable pendant 50 ans. Donc, vous ne pouvez pas dire que l'idéologie n'est pas là. Vous ne pouvez pas dire que, et quand on a appris la ritournelle, que, évidemment, les faiseurs de grammaire n'ont jamais osé écrire à partir de la Troisième République, que le masculin l'emporte sur le féminin, dans les manuels, il y avait des petits dessins qui montraient des garçons qui l'emportaient à la corde, aux yeux de la corde, etc., sur les filles. Donc, vous pouvez pas nier qu'il y a un substrat, idéologique et politique derrière toutes ces préconisations. Voilà. Mais il y a toujours eu des gens pas d'accord.
Alors, il semble que c'est une chose aussi que vous dites plus ou moins toutes les deux dans chacun de vos livres, avec des conclusions différentes. Il semble que l'autre tournant, ce soit à partir de la Révolution française, c'est-à-dire que c'est à partir de la Révolution française qu'on discerne une véritable politique d'État, le début d'une politique d'État, si j'ai bien compris, qui visant à l'éducation et visant aussi au contrôle de la langue. Pendant la Terreur, le Directoire, le Consulat créent les premières écoles, premier réseau de lycées, établissements réservés aux garçons d'élite. C'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas un mélange de différentes choses ? C'est-à-dire, d'une part, peut-être un aspect idéologique, mais d'autre part, des débats sur la langue qui ne sont pas nécessairement idéologiques, comme par exemple la question sur le « là », l'article « là ». Qui est vraiment un truc. Le pronom attribut qui est.
Je la suis quand je suis. Voilà, je suis veuve et je la resterai.
Je la resterai.
C'est ce qu'on a dit jusqu'à la fin du XVIIIe
oui,
siècle.
Qui est quand même grammaticalement très bizarre.
Non, il est tout à fait normal. Bon, je suis veuf et je le resterai. Je suis veuve et je la resterai. Il n'y a rien de plus normal.
Daniel Vanès.
Ça ne se dit pas.
Et nous les resterons.
On dit qu'il ne le, ben voilà, le dit pas.
C'est pourtant mais l'argument les femmes, que oui, trouve Chervel pour la, expliquer pourquoi.
Sauf qu'on n'a pas de texte qui le dise. Tandis qu'on a multitude de textes de femmes qui disent « je la resterai » et je ne vois pas pourquoi on m'obligerait à parler autrement.
Oui, je ne sais pas s'il y a multitude parce que toujours les mêmes exemples qui sortent.
Non,
toujours. Il y a trois exemples que j'ai appris par cœur du débat.
Vous avez raison, c'est toujours les mêmes parce que jusqu'à présent, on n'a trouvé que cela. Mais une amie qui vient de faire l'édition complète de Émilie du Châtelet a trouvé « je la suis ».
Je pense que ça a été
dans Émilie du Châtelet. Oui, oui. On a des correspondances entre Voltaire et Madame du Deffand où Madame du Deffand dit « je la suis ». Donc on sait que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle bien mûr, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'école primaire devienne obligatoire et qu'on charge l'école primaire d'éradiquer un certain nombre d'usages, on sait que les Français parlaient comme ça et que les Françaises parlaient comme ça. Et on a à côté de ça, grammaire sur grammaire qui disent « il ne faut pas dire « je la suis ».
On peut quand même envisager que parfois la grammaire est tout simplement raison, dans ce cas précis.
Mais il faut expliquer pourquoi.
Dans ce cas précis,
c'est, elle a tort. Les grammairiens ont tort.
Ça me paraît
je vous
évident.
Dis, il y a une comment dirais-je, je ne sais pas comment le dire autrement, mais quelle logique ! Je suis veuf et je le resterai. Je suis veuve et je la resterai.
Mais le pronom remplace un
adjectif qui varie.
Nous les resterons.
Le
pourquoi vous voulez pas du pluriel ?
Mais pourquoi pas ? J'en ai.
Mais non, parce que ça n'a pas de sens. Le ou le là en l'occurrence ne se rapporte pas.
Mais c'est
pas
vous qui dites que ça n'a pas de sens parce que vous l'avez jamais entendu.
Non, mais parce que
encore une fois les contemporains de Voltaire, les contemporains de Rousseau le trouvaient tout à fait normal.
Non, mais le ou le là, en l'occurrence, ne se rapporte pas au sujet.
Je suis veuve, c'est un attribut. Je la resterai, c'est un pronom qui remplace l'attribut qui a été mis soit au masculin, soit au féminin. Il n'y a rien de plus normal. Simplement, nous n'avons pas l'habitude.
Je pense que c'est un débat. C'est un débat, c'est un grand enjeu là.
Là.
Parce que oui, moi.
Mais c'est un
là,
tout petit. C'est vraiment un tout petit machin. Hein.
Oui,
tout petit domaine.
C'est un très petit domaine. Ce sont des structures marginales. Et je pense que le débat sur l'écriture inclusive, il commence vraiment au moment où on touche aux matériaux de la langue.
Voilà.
Et moi, c'est là-dessus que j'ai beaucoup de choses à dire.
À part que
la langue bouge. Sur un certain nombre de choses, pour moi, c'est une erreur de dire je la suis. J'ai des arguments pour. Je pourrais faire cours à mes étudiants de master là-dessus, mais ça n'a pas, il y a pas d'enjeu.
C'est pas l'enjeu. C'est pas l'enjeu de fond. Alors on va venir à l'écriture inclusive proprement dite.
France Culture, Signe des Temps, Marc Wetzmann.
It's coming on Christmas, they're cutting down trees, they're They're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long, I would teach my feet to fly. To help me, you know, he put me at ease and he loved me so.
Alors Daniel Manès, si on est tous d'accord sur les noms de métiers et sur la féminisation des noms de métiers, l'une de vos principales critiques concernant l'écriture inclusive, ça concerne, c'est repose sur l'idée que la langue écrite n'existe pas sans langue orale d'abord, et que la langue écrite n'est pas la langue mais sa transcription, et c'est là qu'il y a problème.
C'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que je ne sais pas d'où vient le droit et qui peut s'arroger le droit de changer la langue qu'on transmet. La langue écrite, c'est un trésor qui appartient à tout le monde. Je dis que c'est un trésor parce que, par exemple, en ce moment, j'enseigne à des migrants dans une association qui s'appelle Français Langue d'Accueil, et on sait que c'est la première chose qu'ils demandent, parler français pour pouvoir vivre ici. La langue écrite, c'est ce qui nous unit. Je peux parler à un enfant des Mureaux, dans une classe de CE dans laquelle je travaille. Il n'y a rien de commun dans la vie de cet enfant et la mienne. Mais néanmoins, nous avons ceci en partage. Et moi, mon métier d'adulte, de la prof qui lui enseigne, c'est d'enseigner la langue. Et alors là, ce matériau est neutre, ce matériau de transcription. Il est légué par le temps et on va en faire hériter les autres, et on en a hérité. Et là, il y a pour moi un abus de pouvoir des lettrés.
Yann Viano, sur ce sujet
Je ne sais pas de quoi on parle, parce que, et bien souvent...
On parle de la transcription, c'est-à-dire que là, il ne s'agit plus seulement de féminiser des mots ou des professions ou des mots, il s'agit de transformer la langue pour la transcrire autrement, ajouter citais tout à l'heure, les ES, oui. qui rendent des mots pratiquement imprononçables, sinon franchement illisibles.
Il faut, quand on est à l'écrit, ce qui s'expérimente depuis 25 ans, quelque chose comme ça, et on ne sait pas qui a commencé. Ce qui s'expérimente, c'est des abréviations. Voilà. Pour une toute petite partie du langage égalitaire, on peut parler un langage absolument égalitaire, sans accord du masculin qui l'emporte, sans ceci, sans cela, avec aucune abréviation. Il se trouve que quand on écrit, quand on voit que des mots, c'est sur la question des doublets, hein, c'est-à-dire artisan, artisane, commerçant, commerçante, etc., français, française. Quand on voit deux mots qui ont une bonne partie commune, c'est pas si c'est humain, mais on a tendance à vouloir, on se dit, tiens, je pourrais peut-être faire une abréviation.
Ce n'est qu'un seul mot rallongé.
C'est un seul mot qui en signifie deux. Et il est évident que, comme toutes les abréviations, ce n'est pas fait pour l'oral. Quand nous voyons écrit Monsieur M. Dupont dans un texte, nous ne disons pas, quand nous devons lire le texte, M. Dupont. Ce sont des abréviations qui
sont
juste...
C'est une vraie abréviation.
Deux choses. On essaye, on bricole, des gens bricolent avec des abréviations qui portent sur des termes, un masculin, un féminin, qui ont soit une seule lettre de différence, soit un peu plus qu'une seule lettre de différence. Donc, il s'agit, et on n'est pas du tout obligé de le faire, les abréviations ne sont pas obligatoires. Encore une fois, on peut écrire monsieur en toutes lettres, et on peut écrire artisan et artisane en toutes lettres, mais c'est assez, je disais, c'est humain, certaines personnes, et surtout les journalistes, par exemple, qui sont restreints en place, se disent, si j'écris quatre fois artisan et artisane, ça va me prendre de la place. Ça ira beaucoup plus vite si j'écris artisan.es. Donc c'est une première chose.
Mais pardon, dans l'exemple que j'ai cité au début, oui, agriculteur.ris.
Ça, c'est pas bon. Moi, je condamne ça. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on peut pas parler des préconisations de l'écriture inclusive en général. Il y a plusieurs préconisations. Moi, oui, je condamne ça.
Mais vous l'avez pas dit que c'était pas bien.
Ah mais je l'écris.
Toris là.
Ah mais je l'écris dans mes livres, madame. Vous n'avez pas lu mes livres, mais je l'écris depuis. C'est écrit en toutes lettres. Dans mon dernier livre, il y a écrit le langage inclusif. Pourquoi, comment? Dans le comment, je dis il faut pas faire ça. On peut faire des abréviations à condition qu'il n'y ait qu'une lettre de différence. Par exemple, artisan, artisane, il n'y a qu'un E de différence. Ou bien un E de différence et une consonne redoublée, comme intellectuel, deux LE, hein, voilà. Alors là, on peut le faire, parce que on voit à l'écrit, on voit les deux mots, sans qu'il y ait besoin de substituer une désinence à l'autre. Alors ça, c'est la première chose. Moi, je dis qu'il y a de mauvaises pratiques et je conçois mon travail en ce moment comme essayer de convaincre les gens qu'il y a de bonnes pratiques et de mauvaises pratiques. Agriculteur-trice, non. Points, par exemple, avec point E, point S, le deuxième est inutile. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à mettre deux points? Parce qu'on vient du système des parenthèses. Et il y avait deux signes avec la parenthèse. Donc ensuite, on est passé au trait d'union, on a mis deux traits d'union, parfois deux slash, etc. Aujourd'hui, on met deux points. C'est idiot. On n'a besoin que de un point.
Mais vous dites dans votre livre, vous dites quand même, commençons par faire reculer la domination masculine et laissons venir les propositions. Dont
ah mais ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour les questions du neutre.
Ah ben pas seulement, parce que vous ajoutez, nous verrons bien si ces propositions sont praticables et s'ils vont dans le sens d'une plus grande égalité.
Pour tous.
Entre tous,
ça. C'est une blague, c'est un sourire.
Oui,
parce
oui, j'ai bien compris.
Il y a quelques néologismes que je trouve assez pratiques. Par exemple, tous, hein, bonjour à tous, c'est assez marrant. Bon, c'est un clin d'œil. Si vous lisez bien le propos que je tiens là, je ne parle pas du tout des abréviations. Je parle des gens qui rêvent qu'on pourrait parler au neutre. Et je dis, moi, je ne les vois pas. Ou si ce n'est au neutre, en tout cas d'un genre qui serait entre le masculin et le féminin. Moi, je dis, je dis pas dans la boule de cristal. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que le français est capable de parler entre le masculin et le féminin. Mais laissons venir les propositions. C'est là-dessus que je dis, laissons venir les propositions, et on verra bien si elles sont satisfaisantes.
Donc, j'entends bien ce que vous dites.
Je dis, laissons venir.
Laissons venir, c'est-à-dire, c'est la bouteille à l'encre. Ça veut dire que, à partir du moment où on s'est donné le droit de toucher à la chaîne écrite par définition, c'est-à-dire la mise à l'écrit qui est la nôtre de la langue orale, c'est-à-dire des enfants qui lisent, comment ils vont faire pour lire là? Moi, j'ai commencé avec le chapitre 4 d'une étudiante en thèse à moi qui revenait du Québec et qui écrivait quelque chose comme ça, formateur, slash, tiret, tris, enseignant, point E, point S, chercheur, point E, point S, décideur, slash, euse, auteur, etc.
C'est très mauvais.
Et je lui ai dit, je comprends pas ce que vous faites. C'est une très belle étudiante qui a d'ailleurs soutenu une bonne thèse. Elle m'a dit, madame Manès, avec un air condescendant un peu, mais beaucoup de respect, mais vous n'êtes pas au courant, etc. Alors, c'est la bouteille à l'encre, parce qu'à partir du moment où on se donne le droit de toucher à la langue, au principe de la langue, parce que par exemple, je suis ardemment réformiste de l'orthographe dans la petite marge qui nous est laissée. Hein. Il n'y a pas beaucoup de marge. À cause des 4000 monosyllabes que nous avons en français et qui rendent la chose très compliquée. Mais sur les principes, c'est-à-dire que par exemple, la ponctuation a une telle fonction, le point a telle fonction. Les lettres ne sont pas détachées des mots. Dans la lecture, elles troublent. On est obligé de lire en polyphonie. C'est-à-dire, si je vois intellectuel, point... alors, attendez, moi, je fais des fautes de transcription,
LES,
voilà. Bon, je devrais dire intellectuel et intellectuel à l'oral. Eh bien, moi, je dis que ce n'est pas du français, parce que quand vous dites...
Pourquoi ce serait ça,
logique, attendez. Intellectuel, bien sûr que c'est du français, mais ça ne continue pas en général. Vous tenez, ça tient le rythme, 3-4 lignes, et puis après... C'est on laisse tomber et on arrête intellectuellement, etc.
C'est faux.
Parce qu'on ne parle pas comme ça. Parce qu'il est une règle de rhétorique dans notre culture, qui n'est pas la même qu'en chinois d'ailleurs, par exemple, c'est qu'on ne répète pas les mots.
Mao, il disait ceci est blanc et n'est pas noir, ceci est noir et n'est pas blanc. Dans le petit livre rouge de mon enfance ou de ma.
Nous avons eu les mêmes lectures. Bon, voilà. Mais quand on dit agriculteur et agricultrice, on ne répète pas, ce sont deux mots différents.
Eh ben moi, je pense que c'est pas. Alors, je vais
ce
vous.
Ce sont deux
je
mots différents. Poser... On est bien d'accord.
Je vais vous donner un exemple, Eliane. Je vous dis par exemple, Madame Sand est le plus grand écrivain de sa génération. Est-ce que c'est pas plus élogieux que de dire Madame George Sand, c'est pas le George hein, qui est en question, Madame George Sand est la plus grande écrivaine de sa génération.
Je trouve pas ça plus élogieux.
Eh ben moi aussi. Parce que vous... l'écrivain couvre les hommes et les femmes.
Voilà, parce que
alors, vous êtes le masculin, l'emporte sur le féminin. Nous ne parlons pas la même langue.
Ah oui, parce que si
c'est
on dit,
c'est,
si
on, peut on, dit... Le, on peut tourner la phrase autrement. On peut dire dans sa génération, elle est vraiment la meilleure. Voilà, et tout le monde comprend.
Ah ben bah si, on peut tourner les choses. Bien sûr, bah, bien on sûr, de mille manières. Elle écrivait très bien et ses livres sont les meilleurs, etc.
Mais vous comprenez. On peut se faire comprendre.
Moi, je crois qu'on l'appelle neutre ou qu'on l'appelle pas neutre. Quand je dis, les étudiants doivent s'inscrire avant septembre. J'ai pas envie de dire les étudiants et les étudiantes doivent s'inscrire avant septembre et les étudiants et les étudiantes qui auront oublié de le faire mais risquent d'avoir des problèmes graves avec les professeurs et les professeuses qui les inscriront dans leur TD. Non.
Oui, mais rigole. Parce que là c'est un peu un exemple un peu caricatural.
Bah oui, mais le problème, voyez, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples
caricaturaux. Hier soir, j'ai visité hier soir l'exposition sur le modèle noir. Oui. Hein, très belle exposition.
Ah ouais,
on nous explique au moment de la Révolution que la Convention française a accordé la citoyenneté aux Noirs. Le mot est au masculin.
C'est l'abbé Grégoire.
Le mot est au masculin.
Oui. Alors, est-ce que celui-là, il est générique ou est-ce qu'il n'est pas générique? Il me semble qu'en 2019, on devrait expliquer qu'on a accordé la citoyenneté aux Noirs, RS, mais certainement pas aux Noirs, RES.
Aux Noirs, aux hommes comme aux femmes.
Ah, mais pas du tout,
c'est
madame,
très
vous trompez. Mais vous vous trompez, les femmes n'ont
mais
pas eu la citoyenneté.
Bien, je sais très bien.
Vous le savez.
Je sais très
donc,
bien, ça
ici, voyez, voilà. votre exemple, si aujourd'hui, face à des étudiants qui sont autant de filles que de garçons, on dit les étudiants vont sortir, ou si on dit les étudiantes vont sortir, tout le monde comprend qu'il s'agit
oui,
des
mais
deux. Mais dans beaucoup de récits, on ne sait pas.
Le générique peut nous mettre dedans, vous avez absolument raison. Je cherche une garde d'enfants. Enfant, moi je veux une femme, bon, femme, ou je cherche une garde d'enfant, femme ou homme. La langue nous permet de disposer de tas de, et on l'a toujours fait. Vous avez raison.
C'est ce que je dis, on a toutes les ressources
bien
pour
sûr,
s'exprimer
on a
de manière
des tas de ressources.
Sexiste.
Alors, bricolons pas la chaîne écrite. Parce que,
mais je voudrais revenir sur cet usage du point médian. Moi, depuis 4 ans, je rends à des maisons d'édition tout à fait classiques des textes en langage parfaitement égalitaire, où il y a un point médian toutes les 8 pages. Et elle l'accepte, bien entendu. Puisque, voilà, le problème, c'est de ne pas en farcir partout, de ne pas couper tous les mots. Et donc, notre problème, moi, me semble, plutôt que dire c'est horrible, c'est monstrueux, c'est d'accompagner les gens qui ont envie de rendre leur langage moins sexiste pour les aider à trouver les meilleures solutions. Et elles sont faciles à trouver. I try to talk like a good woman. I try to walk like a good woman. But when I talk, damage is done. When I walk, the angel run. I try to talk. I try to walk.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann assistée de Nathalie Lempereur avec à la technique Valentin Bobinet et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière.
trouble, babe.